Canal Sud 92.2. Encore quelques secondes ou minutes de patience et on va essayer de faire un tour de force.
La vie est mortelle. La vie est mortelle.
Alors c'est parti, attention, MacGyver à côté de Marie-Mad et Tati Daniel, eh ben, c'est un petit garçon, je vous le dis.
Bonjour, oui, nous avons un souci technique apparemment, assez sérieux. Dommage parce que nous avons des invités, à savoir Pascal Calvé qui est comédienne et qui est intervenante en classe théâtre, enfin dans les options, enfin pas dans les options, dans les spécialités théâtre notamment au lycée Berthelot. Ensuite il y a Delphine Cazot qui est professeure de français au lycée Berthelot et qui justement intervient en binôme pour l'enseignement du théâtre, toujours au lycée Berthelot. Et ensuite, il y a deux jeunes qui viennent de passer leur baccalauréat, à savoir Emma et Sacha, qui étaient donc au lycée Berthelot en section L. Donc je dis bonjour à tout le monde. Et parce qu'il semblerait qu'il y a, enfin c'est pas qu'il semblerait, il y a un souci à l'heure actuelle entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, puisqu'en fait les intervenants théâtre, qui sont des comédiens, qui interviennent à raison de 3 heures par semaine par niveau, c'est-à-dire 3 heures en première, 3 heures en terminale, façon plateau, ils me corrigeront si jamais ce n'est pas le cas, dont eux sont payés par la DRAC, donc par le ministère de la Culture. Mais là, et en seconde, normalement, à la rentrée, des lycéens auraient été censés aussi avoir une option, pas une option, un enseignement en théâtre. Mais pour l'instant, il n'est pas budgété. Donc, ils ne savent pas comment on se fera à la rentrée. Et aussi, pour l'instant, les intervenants de théâtre, puisque c'est la même chose pour la danse et pour le cinéma, puisque quand il s'agit de musique et d'art plastique, ce sont les professeurs du lycée. Donc, ils ne savent pas à la rentrée s'ils seront payés ou pas. Pas de nouvelles de la TRAC. C'est le flou le plus artistique, entre guillemets, si nous pouvons dire. Et d'abord, je vais donner la parole, puisque je vais le demander. Daniel a eu cette idée que chaque personne vienne dans la cabine en régie pour pouvoir parler. Et c'est d'abord donc Delphine Cazot, qui est professeure de français au lycée Berthelot, et donc qui travaille en binôme avec Pascal Calvé pour la spécialité théâtre. Donc Delphine, c'est à vous.
Alors, bonjour, donc, je suis Delphine Cazot, en effet, nous sommes une équipe de 3 au lycée Berthelot, Madame Curé et Madame Saldana. Donc, je tenais à dire, et je suis là vraiment, parce que nous sommes juste à côté, j'en suis ravie, je suis venue donc avec Pascal et Sacha et Emma, et nous sommes là au nom, finalement, certes de l'équipe de Berthelot, mais aussi de tous les professeurs et intervenants artistiques de l'Académie de Toulouse. Donc, nous sommes 8 exactement, 8 lycées qui avons la chance de bénéficier de l'enseignement de spécialité. Plus précisément, à Millau, à Mazamé, à Pamiers, à Tarbes, à Lectoure, à Cahors. Et à Toulouse, nous avons donc 2 lycées avec enseignement de spécialité en première et en terminale, jusqu'à présent, Raymond Nave et Berthelot. Voilà. Alors, ce qui se passe, vous avez sûrement entendu ce qui se passe depuis hier par rapport à la réforme et à la mise en place de la réforme. Alors, nous ne sommes pas là pour ça exactement, même si évidemment, nous accompagnons nos collègues grévistes et nous les soutenons. Mais nous ici, on est là vraiment pour défendre le théâtre en tant qu'enseignement artistique. Cela fait 34 ans que cet enseignement existe au niveau national. C'est un enseignement absolument merveilleux parce que nous avons vu des générations et des générations d'élèves passer par cet enseignement-là. Il a été créé par des gens qui ont réfléchi à la fois dans le contenu et dans la forme sur cet enseignement. Je peux dire en tant que prof qu'il n'existe nulle part ailleurs un enseignement pareil, puisque justement la richesse de cet enseignement, c'est que nous co-dirigeons, nous co-animons les cours avec un artiste qui vient donc dans le lycée pour former des élèves sur 3 ans. Donc nous, on tient absolument à ce partenariat. On considère que si ce partenariat est mis en danger, les enseignements de théâtre vont disparaître très rapidement. Pourquoi ? Parce que on considère déjà, on entend un petit peu qu'en tant que professeur de théâtre certifié, donc on pourrait très bien animer des cours sans artistes, et ce n'est juste pas possible parce qu'il ne s'agirait plus du tout de la même chose. Je voulais juste repréciser par rapport à ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de flou malheureusement, enfin, c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est que depuis février nous sommes un collectif d'enseignants et d'intervenants qui demandons à avoir des réponses par rapport à cette réforme, puisque comme vous l'avez très bien dit, en effet on a un problème, l'enveloppe qui est fournie par la DRAC aux établissements restera la même à la rentrée, alors qu'il y a 3 heures de plus avec un intervenant. Donc ce n'est juste pas possible. Nous avons une réunion au rectorat avec la DRAC, et donc c'est là où justement les choses ne sont plus floues, c'est qu'on nous a vraiment dit qu'à la rentrée prochaine et au moins pendant un an, il n'y aurait aucun financement pour ces élèves de seconde. C'est bien pour ça que nous sommes dans cette attente et dans cette inquiétude vraiment très très grande. Voilà.
Je voulais vous demander comment se passent justement ces cours de théâtre, et notamment le binôme.
D'accord. Alors, donc c'est en effet ce qu'on appelle les 3 heures de plateau. C'est-à-dire qu'ils ont 5 heures de théâtre par semaine. C'est un coefficient 6 jusqu'à présent. Ça sera un enseignement de spécialité au même titre que les autres matières, maths, physique, histoire, géo, etc., etc. Donc, dans leur emploi du temps, ils ont 3 heures de plateau. Ce qui est à la fois très peu et en même temps très précieux, parce que ce sont des groupes de 15 à 20 élèves qui, alors au début du parcours, évidemment, on est là avec l'artiste pour leur donner confiance, évidemment, les mettre dans le corps et surtout dans le groupe, enfin, essayer de leur apprendre ce que c'est que d'être au plateau. L'artiste est là pour les diriger, pour les conseiller, et le prof est aussi là pour les encadrer en leur donnant des contenus pédagogiques qui sont aussi ceux de l'artiste. Mais ce qui est vraiment très précieux, c'est que l'artiste apporte son regard qui est complété par celui du prof. Et donc, en fait, on est absolument à la fois irremplaçable, mais aussi, finalement, c'est le binôme en lui-même qui est important pour l'élève. Et c'est ce qui lui permet de grandir et d'arriver à ce que Sacha et Emma sont aujourd'hui, à savoir des diplômés du baccalauréat théâtre. Ils vont vous le dire plus tard, mais en tout cas, ce sont des élèves qui, grâce à ce double regard, ont pu grandir et ont pu obtenir des choses et des résultats absolument merveilleux.
Je voulais vous demander, avez-vous vu une formation précise en théâtre ?
Alors, chacun de nous, on a des formations, oui, quelquefois universitaires. Moi, j'ai plutôt une pratique amateur depuis le lycée, en fait, justement, à Toulouse aussi. Voilà, c'est un cycle. Et avec Laurie Marsoni, c'était à Ramonville, dans les années 80. Voilà, et René Gouzen aussi, bien sûr. Et puis après, je suis partie à l'étranger, donc... J'ai été beaucoup à l'étranger. J'ai été moi-même, j'ai animé des ateliers théâtre à l'université dans les pays de l'Est. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était plutôt côté pratique, moi. Mais c'est vrai que d'autres collègues ont plutôt le côté théorique, et on est tous de grands amoureux du théâtre, et on continue à se former grâce justement aux artistes qui sont avec nous. Ça, c'est très important.
Et pour la partie justement uniquement théorique, comment procédez-vous et en quoi cela consiste-t-il ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est 2 heures. On appelle ça la théorie. C'est en lien avec la pratique, c'est-à-dire qu'on travaille sur des textes en théorie qu'on a travaillé sur des textes en pratique qu'on est censé étudier en théorie à travers un regard qui soit plutôt du côté de la création, de la scénographie, de la mise en scène. Donc on s'interroge à comment est-ce qu'un texte unique peut justement être proposé par divers metteurs en scène, et qu'est-ce que, quand on confronte les mises en scène, qu'est-ce qu'il a voulu mettre en avant, quel est son parti pris. Donc c'est à la fois sur l'histoire du théâtre, mais c'est aussi, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire pour ça, ça met les élèves dans une position de créateur déjà. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très créatifs dans cet enseignement-là, chose qui, je peux le dire parce que je suis aussi professeure de français, n'est pas du tout le cas dans les autres matières. C'est-à-dire que dans les autres matières, on leur demande d'appliquer des choses, mais on ne leur demande jamais de proposer véritablement. Voilà.
Non, en fait, c'est une ode à la créativité, à la liberté aussi.
Exactement. Complètement. Et c'est pour ça que je pense que les autres, comment dire, on devrait prendre modèle sur cet enseignement de théâtre et de cinéma. Hein. Je pense aussi que c'est la même chose en danse, pareil. Enfin, en tout cas, on devrait prendre modèle sur les enseignements artistiques. Quand j'entends parler du grand oral, par exemple, alors évidemment, on est très heureux parce qu'on se dit que les élèves, ils n'apprennent pas assez justement à s'exprimer à l'oral. Sauf que justement, le théâtre ne va pas servir les élèves pour le grand oral. C'est autre chose. Le théâtre va les mettre dans une position où ils pourront peut-être, face à des adultes, et dans le cadre du grand oral, dire qui ils sont et ce qu'ils défendent. Voilà. Mais il ne faut pas voir le théâtre comme une façon un peu mercantile de préparer des élèves au grand oral. Mais c'est pour ça que je tiens vraiment à dire ça, c'est que notre inquiétude, c'est la disparition de ces enseignements artistiques qui vont immédiatement avoir une répercussion sur tout simplement la vie d'un lycée, d'un établissement et des élèves aussi.
Je vais peut-être demander à Emma de venir parler au micro, puisqu'elle a suivi en première et terminale la spécialité
tout
théâtre.
À fait. Oui, exactement.
Dans le cadre en section L.
Oui.
Bon, Emma, bonjour. Je vais vous demander pourquoi vous avez décidé de faire cette spécialité théâtre.
Donc, bonjour. Alors, moi déjà, le théâtre, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toute petite. Mais j'avais une approche très enfantin. Et quand je suis arrivée en troisième, j'avais des difficultés scolaires, dues par exemple à la dyslexie, dues à plein d'autres choses. Et je me suis dit que le théâtre était une opportunité d'essayer de faire quelque chose que j'aimais plus, que j'appréciais plus, et qui sort un peu du cadre scolaire tout en restant dans le lycée, dans un cadre scolaire avec un professeur, avec un plus qui apporté par exemple avec l'artiste qui nous accompagne. Et ça a été le cas. Quand je suis arrivée en première et que je suis arrivée dans cette spécialité théâtre, elle m'a aidée pour beaucoup, beaucoup d'autres choses, pas que pour le théâtre, parce que ça nous apprend à avoir un regard critique, ça nous apprend à avoir un regard et un esprit organisé, parce que c'est bien et c'est normal et il faut créer dans cette spécialité. On nous pousse à la création, mais on nous pousse à créer pas n'importe comment. On nous pousse à créer en organisant notre réflexion et en essayant d'être le plus compréhensible possible pour les autres. Et ça nous donne aussi l'opportunité d'être un peu plus soudés, avoir un peu plus un esprit de classe, de camaraderie. Par exemple, là, on le voyait avec les résultats, on cherchait tout le monde à savoir les résultats de tout le monde. On est beaucoup plus soudés et on a beaucoup plus confiance en soi pour être face aux gens. Et même pour les oraux de langue, les oraux quels qu'ils soient, on a une confiance qui est plus grande.
Et cette double, enfin ce binôme justement enseignante comédienne, qu'est-ce que ça vous apporte?
Ça nous apporte un regard nouveau. Ça nous apporte une nouvelle façon d'aborder la matière, et surtout ça nous apporte une expérience, parce que ces personnes-là ont du vécu, ces personnes-là ont été à notre place, donc dans le début du théâtre, et elles apportent des petits exercices, plein de petits trucs qui forment un grand tout, qui est indispensable au théâtre, parce que les professeurs, oui, ils ont l'expérience théâtrale, mais comme disait Madame Cazot, tous n'ont pas la même approche, parce qu'il y en a certains, c'est plus théorique, d'autres plus pratique, alors que les comédiens, et même par exemple les metteurs en scène, qui peut avoir dans les intervenants, ont un côté beaucoup plus pratique, beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus ancré dans tout cela. Et cette expérience, elle est enrichissante pour le théâtre et pour notre vie et pour la façon dont on grandit.
Et j'aimerais savoir quel avait été sur quoi avez-vous été interrogé justement dans la partie théâtre lors de votre baccalauréat.
Alors nous, on a 3 œuvres pendant l'année qui sont imposées par l'État et qui sont les mêmes pour tous les Français qui font théâtre. Donc il y a Britannicus, il y a Voicek, qui est une pièce allemande, et il y a Olivier Py, donc c'est 3 pièces qui sont complètement différentes, qui viennent de 3 époques différentes, qui ont
des univers différents.
Donc, donc le théâtre, ça se passe en 2 parties, il y a même 3 l'épreuve. Il y a la partie orale, où il y a un entretien sur un carnet de bord qu'on tient tout au long de l'année, où il y a les pièces de théâtre qu'on va voir, il y a notre pratique, notre traversée de la pièce, donc tout ce qu'on a pu faire au plateau. Donc là, il y a un oral sur ça. Et après, il y a une partie pratique où là, on joue. On joue au minimum sur 2 pièces. On peut même jouer sur 3. Et donc là, moi, je suis passée sur Britannicus et Wojciech, et qui sont des pièces qu'on a abordées complètement différemment. Par exemple, Britannicus, on était en binôme, alors que Wojciech, on a fait une grande scène collective où il y avait vraiment tout le monde sur scène qui était tout le temps présent pour donner une ambiance, pour donner une énergie collective. Donc on est passé sur ça. Et après, donc il y a l'écrit où il y a deux sujets différents et où là il y avait Olivier Py et Wojciech. Et pour le sujet de Wojciech, celui que j'ai pris, on devait se pencher via des images sur le personnage principal, donc Wojciech, le personnage éponyme, et faire une proposition scénique du personnage, que ce soit de l'acteur lui-même ou des costumes ou de la façon dont jouer, etc.
Je vous remercie et nous allons donner le micro à Sacha. Bonjour Sacha.
Bonjour.
Donc, même question, pourquoi avez-vous décidé de prendre une spécialité théâtre dans votre cursus lycéen ?
Ah bah, décidé, bah, déjà je ne savais pas trop à quoi j'allais m'attendre, parce que je ne connaissais pas du tout cette spécialité. Mais c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours été très créatif, je voulais tout le temps faire les choses avec mes mains, tout ça. Donc c'était un moyen pour moi, pour ce jeune élève qui était un peu dissipé, dont le parcours scolaire n'était pas forcément facile tout le temps, de trouver peut-être une matière artistique qui allait plus ou moins m'épanouir. En tout cas, c'est ce que j'espérais de cette spécialité, et ça a marché. Parce qu'aujourd'hui, voilà, depuis 10h du matin, j'ai mon bac, et je pense que je le dois aussi beaucoup à cette spécialité, qui m'a beaucoup aidé durant tout mon cursus à partir de la première. Oui.
C'est-à-dire, vous êtes aidé à canaliser certaines choses ou au contraire, vous donner une plus grande liberté et oser faire des choses?
Bah, c'est vrai que cette spécialité, elle a une grande qualité que les autres matières n'ont pas. On n'a pas du tout l'habitude, par exemple, en français, en histoire géo, de travailler en groupe. C'est vrai que le travail de groupe, c'est quelque chose qui aide énormément, déjà par rapport à l'écoute. L'écoute est très très important, surtout je pense dans notre tranche d'âge. Et la parole, tout autant que l'écoute, l'est aussi. Et ces deux choses réunies permettent de grandir plus vite et de comprendre autrui, de comprendre tout ce qui nous entoure et aussi de se faire comprendre. Et ça, c'est une chose qui est tout de même très importante et qui, à l'avenir, va sauver beaucoup, beaucoup d'élèves, à mon avis, pour la réforme du bac.
Et donc, même question que tout à l'heure à Emma. Que pensez-vous du travail en binôme, c'est-à-dire enseignante-comédienne ?
Ah bah c'est primordial, j'ai envie de dire, bien sûr. Il y a un apport théorique fait par le professeur qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a une épreuve écrite au baccalauréat. Du coup, il nous faut des enseignements théoriques sans lesquels on ne pourrait pas assurer une bonne copie à la partie théorique. Et pour l'enseignement pratique, l'intervenante d'un ou d'une artiste est tout autant importante que celle de la partie théorique par le professeur. Et donc bien évidemment que l'un ne va pas sans l'autre, parce que c'est très important d'avoir des directives, surtout en théâtre, d'un point de vue professionnel, je pense. Ouais.
Et qu'aviez-vous choisi à l'épreuve écrite ?
Moi, j'ai choisi Wojciech.
Décidément.
Oui, parce que c'était, à vrai dire, c'était encore tout frais dans ma mémoire. Ça a été le dernier univers qu'on a travaillé pendant l'année de terminale. Donc, mon choix devant la copie s'est fait très très, très vite. Oui. Donc, Wojciech, c'était évident. Oui.
D'accord. Donc, dans quelques instants, nous allons donner la parole à Pascal Calvé, qui est la comédienne qui intervient au lycée Berthelot. Bonjour Pascal.
Bonjour. Voilà, donc en effet, je suis la comédienne intervenante, enfin l'une des comédiennes intervenantes, parce que nous sommes une équipe, et une autre comédienne intervient, et voilà, on se partage en fait les interventions tout au long de l'année auprès des élèves de première et de terminale théâtre de Berthelot.
D'accord. Et c'est-à-dire, quand vous dites vous partagez, vous intervenez toutes les deux en même temps ou une classe chacune ou selon les semaines ?
Non, selon les modules. Donc moi, cette année, très concrètement, je suis intervenue sur l'année entière avec la classe de première. Et je suis intervenue sur deux modules sur trois sur l'année de terminale. Et une autre intervenante, Valérie Moyon, est intervenue sur un module, Illusion comique d'Olivier Py, pour la classe de terminale. Voilà, et ça permet... Je crois que c'est très important en fait que les élèves aient plusieurs entrées, plusieurs visions artistiques, plusieurs approches en fait de la part d'artistes. Et l'année prochaine, vraisemblablement, on agrandira encore le cercle d'intervenants pour que les élèves aient encore d'autres approches, d'autres entrées dans le travail.
Et pouvez-vous nous parler de la façon dont vous préparez vos interventions et notamment le travail en binôme ?
Alors. Moi, je ne suis pas bonne en improvisation pour préparer pour les séances, donc je prépare toujours les séances à l'avance, bien que, et ça, quasiment chaque séance le confirme, on travaille avec la réalité du terrain. C'est-à-dire, on a beau préparer un axe de séance, si les élèves ne sont pas dans l'état envisagé, si les élèves arrivent très fatigués ou au contraire, si les élèves arrivent trop pleins d'énergie, le training envisagé va être modifié pour amener les élèves à un point de travail qui, là, aura été déterminé d'avance. Et comment on travaille dans le binôme ? Alors ça, c'est assez compliqué, en fait, à dire. Parce que quand ça se passe bien, voilà,
ça coule.
Les choses vont immédiatement, en fait, se cale immédiatement la place de l'intervenant, la place de l'enseignante se cale immédiatement dans les séances. Alors, il y a un travail en amont, c'est-à-dire qu'on se voit, on a des temps de travail en dehors du plateau, on se met d'accord sur les manières d'entrer dans une œuvre, puisqu'en première, le programme est libre, donc c'est nous, et ça, c'est formidable. La réforme va amener un programme obligatoire, et moi, j'aimais beaucoup la liberté que nous avions sur les premières. C'est-à-dire qu'en fait, on déterminait le programme et la progression sur l'année en fonction vraiment de la nature du groupe. Donc on passait par on adaptait complètement en fonction de la nature du groupe. Maintenant, a priori, un programme va entrer sur les classes de première. Et sur les classes de terminale, il y a un programme, comme Emma vous l'a énoncé plus tôt. Et là, il faut s'accorder sur une entrée, parce que évidemment, se mettre en travail sur une œuvre, c'est déjà prendre un parti pris. Et donc c'est là où on s'accorde, en fait, on ne travaille pas une œuvre en intégralité, on travaille soit en fragments, soit une portion d'œuvre, soit on fait choisir aux élèves les scènes, les portions qu'ils choisissent de travailler. Ça dépend des œuvres et ça dépend justement des choix que l'on fait ensemble. Et ce moment de partenariat, de choix ensemble est déterminant. Et je trouve que le travail en partenariat est extrêmement riche, en fait. Voilà, parce qu'on croise des entrées, on croise des regards, on croise des savoirs, on croise des doutes, des questions. Et quand ça se passe bien au plateau, c'est absolument merveilleux.
Et depuis quand exercez-vous vos talents, si je puis dire, en milieu lycéen ?
Moi, depuis quand ? Alors moi, j'ai commencé très jeune, en fait, la transmission, parce que ça m'a toujours passionnée. Les petits élèves là, vont savoir mon âge, donc j'ai commencé... à 28 ans, et cela fait, j'en ai 46, donc voilà, j'avais tout ça, et ça me passionne. Moi, je suis vraiment passionnée par la transmission, j'aime énormément être devant des jeunes et voir le moment de théâtre naître. Je trouve que c'est d'une beauté infinie, ce moment-là.
Et est-ce que vous, en tant que comédienne, cela vous a permis d'évoluer différemment, le fait de travailler avec des lycéens ?
Oui. Parce qu'en fait, moi, je puise, et je pense qu'on fait tous ça en tant que comédien, on puise vraiment dans notre expérience personnelle pour, en tout cas, moi, je passe par là, dans l'expérience personnelle, pour savoir comment diriger, comment insuffler, comment accompagner, en fait, ce qui se passe devant nous. Voilà. Et on se retrouve inévitablement devant des choses par lesquelles on n'est pas passé pédagogiquement. Voilà, enfin, moi j'aime beaucoup cette place en fait de pédagogue, de transmetteuse, d'accompagnante, de passeuse, voilà, vraiment de passeuse de théâtre, où il s'agit vraiment de regarder en profondeur, j'ai l'impression moi, de regarder le cœur battant de l'élève, du jeune acteur, en fait, pour savoir vers où le diriger. La direction ne va pas du tout être la même entre Sacha et Emma sur une même scène, les consignes données ne seront pas du tout les mêmes. Ça, c'est complètement basique face à un élève ou à un acteur. Et je trouve que moi, j'aime beaucoup accompagner cet âge-là, c'est-à-dire l'âge des possibles, en fait. le 16-18 ans, où tout est ouvert, tout est possible, tout se découvre en fait encore. Il y a une fraîcheur, vraiment une beauté immense en fait. Et on touche pendant les répétitions des moments d'une grâce inouïe.
Donc là, nous allons parler de choses peut-être moins poétiques, à savoir le fait que vous soyez rémunéré par la DRAC, donc par le ministère des Affaires culturelles. Et donc là, apparemment, il y a un silence de la part de la DRAC. Et donc, qu'en est-il de votre devenir?
Voilà, il y a un silence total et pour l'instant, une porte que l'on sent, un mur que l'on sent fermé, et voilà, pour l'instant, totalement fermé sur l'année de seconde. C'est-à-dire que cette réforme remet en place l'année de seconde dans le cursus théâtre, qui avait été supprimée, en fait, qui existait il y a des années, je ne sais plus combien de temps. L'année de seconde existait auparavant et a été supprimée, remplacée par les... J'aurais besoin de l'enseignante...
Nous allons demander à l'enseignante de venir, Delphine Cazot. Voilà, nous demandons l'aide de Delphine Cazot.
Par les enseignants et enseignements d'exploration, voilà, le nom me revient. Voilà, le niveau de seconde avait été remplacé par ces enseignements d'exploration qui n'étaient assurés que par un enseignant. Voilà. Et là, avec la réforme, l'année de seconde, artistiquement, dans les disciplines artistiques, est remise. Sauf que nous concernant, la DRAC a mis un veto sur le financement d'un partenariat artiste-enseignant. C'est-à-dire que pour l'instant, il y aura des heures prof dans les lycées pour assurer cette année de seconde, mais il n'y a aucune heure, aucun crédit alloué aux intervenants. Et donc, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, nous a semblé comprendre que le rectorat, que les académies demandaient du bidouillage, c'est-à-dire demandaient à des chefs d'établissement de bidouiller, et donc ce qui apporte une inégalité totale sur le territoire, et ce sur quoi on s'élève complètement.
Voilà. Mais pourquoi mettent-ils un veto à l'aspect financier?
Alors, oui, je ne suis pas sûre que ça... Enfin, je peux parler. Oui, donc juste, enfin, j'entends bien. Hein. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un veto. C'est-à-dire qu'eux disent qu'ils n'ont pas été consultés donc, au moment de la mise en place de ce programme qui stipulait qu'il fallait qu'il y ait un intervenant. Donc, ils ont dit quelque part qu'ils avaient découvert ça après, a posteriori, et qu'en plus, par rapport au budget année civile, année scolaire, ils ne pouvaient pas financer la rentrée 2019. Donc, ils nous ont dit dans un courrier qu'il y aurait des audits, enfin, en tout cas, qui viendraient pendant l'année scolaire prochaine, voir où est-ce qu'il y aurait besoin d'un financement pour éventuellement, mais il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, nous, on le voit comme ça, éventuellement financer à la rentrée 2020. Mais bon, éventuellement, vous comme moi, vous savez ce que ça veut dire, quoi. On ne sait pas, et puis surtout, on ne sait pas qui va avoir la chance d'obtenir ce financement, et d'autres non, et sur quels critères. Donc tout ça est assez flou. C'est vraiment cette question-là qui nous gêne, c'est le flou et l'inégalité sur le terrain. Parce qu'on sait évidemment que certains établissements seraient capables de financer peut-être un intervenant, d'autres ne peuvent pas. Et donc nous, on veut absolument que ça soit unitaire et égalitaire.
Et conserver ce partenariat historique par lequel sont nés ces enseignements artistiques en lycée. Voilà, ce partenariat est essentiel.
Mais pouvez-vous nous expliquer cette différence justement entre différents lycées au niveau pécuniaire? Parce que ça m'interpelle.
Alors moi je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des dotations budgétaires des lycées, comment s'évaluer, quelles sont les sommes et par où les lycées reçoivent leurs sommes. Mais il est certain que certains lycées ont des fonds propres, je crois que ça se nomme comme ça, plus élevés, ou en tout cas les décisions de répartition en fait de ce budget reviennent directement au chef d'établissement. Et certains chefs d'établissement choisissent d'aller mettre ce budget sur une matière ou sur une autre. Voilà.
Sur un projet ou sur un autre. Voilà. Tout à fait. Et c'est en ce moment que ça se décide, puisqu'il y a les conseils d'administration qui sont, parce que le chef d'établissement, évidemment, a choisi. Ça doit être validé par le vote du conseil d'administration avec les représentants de professeurs et des parents et des élèves. Donc c'est vrai que ces choix sont assez, même sont essentiels pour la vie du lycée, puisque, par exemple, si on n'a pas d'argent pour financer un intervenant artistique ou autre, hein, parce que ça peut être sur un autre
projet, eh ben on va le chercher ailleurs, on va le chercher dans un projet qui soit ne marche plus, soit a marché longtemps, mais on décide que ça... Enfin, donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que ça enlève un budget sur certains élèves pour en mettre sur d'autres, et ça ne nous va pas du tout. Il faut vraiment qu'on ait ce sentiment d'être soutenu par nos ministères, tout simplement. Et encore une fois, le paradoxe, là, c'est qu'on est en train de demander, tout simplement, l'application d'un programme qui a été décidé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, je voudrais vraiment insister dessus. Le maintien du partenariat entre éducation nationale et culture pour les enseignements de spécialité est optionnel, c'est ce que l'on veut, et le renouvellement au plus tôt des conventions, évidemment, avec soit les compagnies, soit les structures, sur 3 ans. Donc ça, je le dis encore, c'est pas du tout ce que disent les médias actuellement, hein, puisque nous entendons beaucoup de choses à l'encontre des professeurs actuellement, disant que nous manquons évidemment de professionnalisme, etc. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne cet enseignement artistique, on demande l'application de ce que le programme souhaite. Donc, on demande à ce que le ministère aille jusqu'au bout de sa proposition. C'est tout à fait différent. Et ça ne veut pas dire que, évidemment, nous ne soutenons pas les collègues grévistes actuellement par rapport à l'ensemble de la réforme. Là, on est ici vraiment pour parler du partenariat entre l'Éducation nationale et les ministères de la Culture.
Et comment se fait-il que ces deux ministères, donc, qui sont censés travailler de temps en temps conjointement, apparemment ne communiquent pas ?
Alors ça, nous ne sommes pas dans les réunions au sommet.
Ah oui. Là, c'est vraiment quelque chose qui nous échappe, mais alors complètement, parce que nous, naïfs que nous étions, nous pensions que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale s'entendaient à Paris pour décider d'un programme éducation nationale. Ça semble ne pas être le cas. Enfin, nous, mais évidemment, on n'est pas au courant, puisque on ne sait pas exactement comment ça se passe. En tout cas, on en paye un petit peu les conséquences actuellement de cette absence de communication.
Aujourd'hui, bon, ce sont les vacances, si hein, je suis bien au courant. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est comment continuez-vous votre combat, entre guillemets
Alors, nous allons tous partir en vacances pour nous reposer déjà, parce que ça a été les dernières semaines ont été très très fatigantes. Pour l'instant, nous sommes, et ça a été dit par notre courrier, le courrier du collectif, nous disons que dans l'état actuel des choses, les cours ne pourront pas se passer correctement, puisqu'il n'y a pas pour l'instant d'intervenants prévus. Mais évidemment, tout ça, on vous tiendra au courant, on reviendra peut-être ici pour la rentrée prochaine et savoir si des choses ont bougé éventuellement.
Et j'aimerais savoir si la lycéenne et le lycéen voudraient de nouveau venir parler, et notamment pour les élèves qui les succéderont. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, et puisqu'ils ont eu cette chance de bénéficier de cet enseignement. Donc voilà, s'ils veulent dire 2 mots.
Emma ? Donc moi, je vais rajouter que beaucoup d'élèves pourraient hésiter à prendre oui ou non le bac. Surtout que beaucoup de parents peuvent être réticents en disant que le théâtre, c'est une matière qui peut paraître moins prestigieuse que des maths, que de la physique chimie, ou même du français ou de la philo. Mais non, n'hésitez pas, ça apporte beaucoup, ça vous apportera beaucoup pour vous personnellement, comme sur votre plan scolaire. Donc n'hésitez pas, et c'est quelque chose de formidable, c'est une expérience formidable que je souhaite à un maximum de personnes et d'élèves.
Allez-vous continuer en théâtre ?
Oui, je vais sûrement continuer mes études autour du milieu artistique, surtout du théâtre, donc sûrement de la mise en scène ou de la scénographie, ou si je ne continue pas dans cette voie-là, je vais continuer dans tout ce qui est culturel et dans le partage du théâtre et de la culture.
Et Sacha, dans quelques secondes.
Oui, alors, une petite chose à rajouter. Bon, après, Emma l'a très bien expliqué. L'enseignement, de manière globale, est truffé de préjugés. Et j'en suis parfois la preuve. C'est vrai que le théâtre peut être parfois considéré comme une matière qui n'est pas forcément nécessaire à l'épanouissement d'un jeune élève. Mais vous vous trompez. C'est pas vrai, parce que justement c'est peut-être le théâtre qui va faire que votre enfant va avoir son bac et va pouvoir continuer dans cette voie. Et moi je souhaite à tous les jeunes élèves de vivre ce que j'ai vécu, parce que c'était très, très enrichissant, et j'ai beaucoup appris de mon enseignement, et ça vaut de l'or pour passer le bac, vraiment. Et petite dernière chose aussi, voilà, moi ça m'a beaucoup aidé, et oui, je compte continuer là-dedans dans les années futures. En tout cas, je compte pas lâcher le théâtre comme ça, et je vais prouver que c'est très important aussi.
Il faut préciser que l'option, la spécificité théâtre a un fort coefficient.
Oui, alors oui, ça aussi ça peut faire peur, coefficient 6, mais quand on le compare à des spécialités comme anglais approfondies qui montent coef 8 au bac, qui sont plus en bac théâtre, qui sont plus fortes coefficientées que la philosophie, on réévalue un peu ses chances, et c'est vrai que le théâtre c'est des points qui parfois peuvent être faciles si on montre qu'on a envie, quoi.
Et puisque vous parliez philo, justement, rapport philo-théâtre, puisqu'il y a notamment je pense à quelqu'un comme Jean-Luc Lagarce, qui était comédien, metteur en scène, et qui écrivait, et aussi qui avait toute une réflexion philosophique, justement, sur le théâtre, et notamment théâtre et politique.
Alors oui, oui, c'est vrai. Alors oui, la philo, est-ce que ça aide? Ça peut aider. Ça peut aider, bien sûr. En tout cas, la philo aide à comprendre le théâtre. Je ne sais pas si le théâtre aide à comprendre la philo, mais en tout cas, la philosophie, c'est une matière qui aide à comprendre certaines démarches de certains auteurs impliqués, comme peuvent l'être Jean-Luc Lagarce. Et après, en fait, le théâtre et les différents auteurs peuvent être liés à tout plein de matières différentes. Si on peut penser à Wajdi Mouawad, qui écrit sur des problèmes actuels et des inégalités entre les pays du Nord et du Sud, c'est non négligeable que ça peut être très vite lié sur certains chapitres en histoire. Et voilà.
Notamment Olivier Py aussi, que vous avez étudié aussi, établi comme ça se pose des questions par le biais de ses pièces.
Oui, bien sûr, Olivier Py, on peut le relier au chapitre sur la politique en philosophie, qui est un chapitre assez conséquent du programme. Et oui, c'est vrai qu'on peut faire très, très vite les rapprochements et réfléchir et voir sous un autre point de vue l'œuvre, c'est vrai, avec l'ensemble des enseignements au lycée, oui.
Merci, mais peut-être je vais demander à Pascal Calvé.
Apporter une petite conclusion.
La petite conclusion, c'est que nous espérons ne pas avoir à revenir. Nous espérons d'ici la rentrée avoir les réponses positives de la DRAC qui valide les enseignements dès la seconde et qui permettent d'ouvrir les budgets, qui permettent aux élèves en fait d'entamer une année scolaire confortablement.
Sereine,
confortable, qui nous permettent tout simplement de faire notre travail, en fait. On demande simplement à pouvoir faire notre travail dans de bonnes conditions. Voilà. Directement, simplement.
Mais même si vous obtenez gain de cause, ce serait bien que vous veniez le dire, justement.
Oui.
Parce que nous serions rassurés.
Voilà. Donnons-nous rendez-vous en septembre, en fait, à l'issue de la rentrée.
Oui.
Dans ce cas, avec grand plaisir.
Est-ce que Delphine Cazot veut encore dire quelque chose ou pas? Je ne sais pas, comme c'est l'enseignante du lycée Berthelot.
Nous vous remercions beaucoup pour votre invitation et ce temps d'antenne qui nous permet peut-être de réagencer et remettre un petit peu les idées en place par rapport à tout ce que l'on entend en fait sur la réforme et qui peut peut-être parfois pénaliser le monde enseignant, alors que tout est fait pour être au plus juste en fait auprès des élèves, que les élèves soient au plus juste dans leur apprentissage et ne soient pas pénalisés de nulle part.
Delphine,
Oui, un dernier mot. Moi, évidemment, quand on écoute ce qu'on entend dans les médias, etc. Et puis,
c'est-à-dire préciser.
Il se dit que l'école ne fait plus son travail, justement, pour aider les élèves, même ceux qui ont des difficultés au départ, à grandir et à obtenir des choses. On a le sentiment d'être dans un monde de plus en plus inégalitaire. On parle des jeunes qui sont complètement décérébrés. On parle de ceux qui, justement, ne lisent plus, ne s'intéressent plus à la culture. Moi, je tiens à dire que c'est faux. D'ailleurs, je pense que je ne serais pas professeur si je n'étais pas professeur de théâtre. C'est-à-dire que ce qui me tient debout et qui me fait lever le matin, c'est eux, quoi. Ce sont les élèves. Parce que je sais que sur les 15 ans où j'ai été professeur de théâtre, je les connais maintenant, je les suis, je vois leur parcours. Ils ont des parcours très différents, pas obligatoirement artistiques, mais des parcours de jeunes adultes qui ont des vies qui ont été justement nourries au départ par le théâtre et qui fait que qui sont admirables. Enfin, pour des raisons différentes, mais c'est vraiment grâce à ça que je me lève et je pense que mes collègues professeurs ont le même avis. C'est-à-dire qu'en enseignement artistique, c'est très particulier. On sait qu'on les laisse partir dans le monde et qu'ils vont peut-être essayer de le changer, ce monde, ou en tout cas de le garder comme ils l'ont rencontré, ou en tout cas essayer de le rendre aussi à la hauteur de leurs rêves, parce que sinon, ça ne sert plus à rien et autant tous s'arrêter là, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment eux qui sont devant maintenant, voilà.
Et ça, simple curiosité de ma part, durant l'année scolaire, combien de fois allez-vous au théâtre avec vos élèves?
Alors justement, comment dire, je suis un petit peu une exception parce que je crois que nous y allons quasiment chaque semaine, enfin bon, parce que moi j'adore ça, et en fait, mais en fait j'ai l'impression de leur avoir transmis un peu le virus hein, là-dessus, parce que ils ont envie d'y aller, je pense qu'ils vont y aller sans moi, on ira ensemble encore l'année prochaine, enfin j'en sais rien, mais ça fait partie de notre vie, donc c'est plus une sortie scolaire en fait, c'est la vie tout simplement, voilà.
Mais votre collègue de Raymond Nave qui devait venir et puis qui n'a pas pu venir va souvent aussi, puisque je le croise au théâtre.
Ah oui, ça, Monsieur Mazzorato, il va beaucoup. On se croise aussi. D'ailleurs, il connaît les élèves et toutes les autres collègues. Alors après, on n'aime pas obligatoirement les mêmes théâtres, mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment et
le
ça aussi. Oui, je tenais à le dire parce que dans le cadre de la réforme, on nous laisse de moins en moins de liberté pédagogique en tant que prof, et ce qui fait qu'on y arrive et on parvient à leur transmettre le savoir, c'est quand on aime un auteur. Alors, on a parlé là de Wajid Mouawad, hein, c'est-à-dire que j'ai le sentiment, moi, que je leur ai transmis mon amour de ces textes et d'autres auteurs aussi, et que si on m'impose un texte, évidemment, je n'aurais pas du tout la même force. Ah non, mais c'est sûr. Oui, voilà.
D'accord. Est-ce que Pascal veut encore dire quelque chose ou pas? Et ensuite, nous nous dirons au revoir et je vous remercierai tous et toutes.
Bon, moi, pour clôturer et compléter ce que Delphine Cazot vient de dire, c'est que moi aussi, je viens en courant au cours que je donne à ces jeunes gens et que j'ai un plaisir fou au partenariat, que c'est un partage d'une richesse inestimable et que si je continue dans la transmission, c'est parce que ces partages-là, ces moments-là de grâce existent, en fait, partagés avec ces jeunes. Voilà, donc j'espère que ça va se poursuivre. Merci beaucoup à nouveau pour votre invitation et on se dit en septembre. Donc.
Merci à vous. En quelques secondes, nous avons tenté de reprendre le direct avec l'équipe de la CAF Poésie.
3. Voilà, bonjour, vous êtes bien sur Canal Sud. Marie-Madeleine, je vous laisse la parole. Oh là là, nous venons de réparer les micros, Marie-Madeleine, je vous laisse la parole.
Oui, alors là, c'est juste un peu fort, c'est trop fort pour moi. Donc apparemment, alors, nous reprenons le direct dans les conditions adéquates, c'est-à-dire que les invités... Yann, ne touchez pas le micro, ça fait
du... Oui, je sais, mais voilà.
Quel enfant indiscipliné vous faites.
Pense sur les doigts.
Voilà, donc là, les invités de la CAF Poésie sont autour des micros dans le studio et nous allons pouvoir faire le direct dans les conditions idéales, si on peut dire. Sauf nouveau pépin. Donc, nous accueillons Clémentine Ponce, qui est la chargée de communication de la CAF Poésie, Mélanie Laure, qui l'assiste, vous me...
Oui, c'est ça.
Et Yann Balade, que vous avez déjà entendu, l'élève indiscipliné, qui est le directeur artistique de la CAF Poésie. Et c'est afin d'évoquer la programmation musicale de la CAF Poésie durant tout l'été. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
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 Donc, en ce moment, il y a d'abord la guinguette jusqu'à la fin de la semaine, hein, c'est ça ?
Jusqu'au 13.
Voilà, donc prochaine. Vous pouvez me parler du principe, même si, bon, la guinguette, je crois que tout le monde sait ce que c'est, mais pourquoi vous avez fait ce choix et puis dire comment cela s'est passé, s'est déroulé ?
Eh bien, en fait, c'est un choix qu'on a fait un peu au dernier moment. En fait, on a eu envie d'organiser une guinguette pour mettre en avant tous les artistes, enfin, pas tous parce que c'est pas possible malheureusement, mais la plupart des artistes qui nous écrivent, qui nous contactent. Et qu'on ne peut pas programmer, parce qu'on a déjà une programmation qui est déjà...
trop riche.
Très riche. Mmh. Je ne sais pas si c'est trop, mais en tout cas très riche. Et donc, on avait envie de créer un espace pour qu'ils puissent aussi expérimenter des choses, leur laisser le temps, leur donner l'opportunité d'expérimenter des choses et de se confronter au public, peut-être sur des formes qu'ils n'avaient pas l'habitude de mettre sur scène avant. Et voilà. Et donc, on a une programmation... donc, ça a commencé mardi soir. Ça finit vendredi prochain, donc samedi prochain, pardon, le 13. Et on a des concerts différents tous les soirs, avec des genres musicaux différents. Après, je peux vous dire les groupes.
Oui, bien sûr.
Alors, ce soir, on a un groupe qui s'appelle Amoncha, qui fait de la chanson française poétique, avec au piano et à l'accordéon. Donc voilà, normalement, c'est un trio, mais là, elles seront que en duo. Normalement, il y a un contrebassiste avec, mais il ne sera pas là. Ensuite, demain soir, on a de la... Alors, c'est un spectacle un peu particulier. C'est un peu entre la magie et la musique. Alors, ils ont qualifié ça d'illusion musicale. Donc, je pense que ça va être plein de surprises.
C'est un spectacle qui a été mis en scène par Éric Burbaï, il me semble, ouais. Qui était venu à la cave, vous l'avez peut-être vu, en mars, pour le spectacle Jour Noir d'Ibrahim Abba. Ce comédien de l'AJ Théâtre qui a monté un solo dans lequel il raconte son exil en France venant de Guinée-Conakry. Et Éric Burbaï lui avait fait le regard extérieur. Et là, donc, il revient avec ce duo Gapco d'illusion musicale.
Voilà. Ensuite, donc, la semaine prochaine, le mardi soir, on aura de la musique indienne. Alors, c'est une ancienne volontaire en mission de service civique qui était à la CAF.
Ah, mais c'est Claire. Claire, qui est revenue de son voyage.
Voilà,
c'est ça,
qui est revenue de son voyage, qui apprend actuellement la flûte indienne en Inde, auprès de son gourou.
De son maître.
De son maître. Et voilà, donc elle revient avec des amis. On leur a proposé d'un temps sur scène pour aussi expérimenter une nouvelle forme qu'ils ont entre eux. Ils forment un groupe là, de musique indienne.
Elle jouera elle-même ?
Oui, elle jouera, elle sera là. Ouais.
Donc là, c'est plutôt une ambiance de raga, c'est-à-dire ces longs morceaux musicaux très, très lents et très méditatifs qui nous emportent ailleurs. Donc voilà, entre de l'illusion musicale, de la chanson française poétique, de la musique indienne, c'est vraiment l'envie sur cette guinguette de proposer des choses très très variées, des horizons musicaux très divers.
Ensuite, le mercredi, je me souviens plus. en fait, je me souviens plus de l'ordre. On aura aussi de la musique brésilienne, mais ça, je crois que c'est le jeudi prochain.
C'est vendredi.
C'est le vendredi, avec une jeune femme qui s'appelle Camila Souza. Qui propose de la musique brésilienne.
Enfin, on aura plein de choses comme
mais
ça jusqu'au 13.
Les choix, vous les avez effectués parce que justement, ils ont fait appel à vous ou vous les aviez entendus quelque part et vous leur laissez cette opportunité.
Les deux. C'est-à-dire que voilà, à la cave, on reçoit beaucoup de propositions artistiques. Et là, on avait 15 jours de disponibles. On s'est dit, tiens, ça aurait pu être intéressant de mettre en lumière tous ces artistes qui nous demandent de venir et dont on ne retient pas les projets. Soit parce que c'est trop tard, soit parce que leurs projets en fait sont pas encore mûrs par rapport à une longue série. À la cave, on fait quand même des concerts sur 5 jours. Il faut quand même avoir un peu de solidité. Donc hier, par exemple, il y avait le trio Mandiwa avec Dirk Vogeler au sax, qui maintenant est un trio. Donc c'était un duo, maintenant c'est un trio et ils étaient en répétition toute la semaine dernière. Ils se sont dit ça peut être intéressant de venir à la cave, tester notre trio, voir comment ça sonne, etc. Donc c'est une envie de proposer autre chose. D'ailleurs le fonctionnement est tout autre puisque on propose une participation libre au chapeau.
Ah d'accord.
On propose à manger, on a installé
la terrasse
derrière.
Dans la cour de l'école Sermet, c'est ça ?
Voilà. C'est vraiment une guinguette, c'est-à-dire que l'idée, c'est de venir pour passer un peu de bon temps. À un moment donné, il y aura un concert, mais on ne vient pas forcément pour le concert.
C'est l'opportunité de découvrir des nouveaux groupes qu'on ne connaît pas forcément. Mais voilà, c'est pas... Enfin, les spectatrices et les spectateurs ne viennent pas forcément pour les concerts, ils viennent avant tout pour passer
c'est
un bon moment
formel,
dans
quoi.
Un endroit.
Voilà, c'est ça, c'est moins formel.
Donc j'ai retrouvé la liste. On aura du coup le mercredi 10 un duo de deux violoncellistes qui questionnent en fait leur instrument, qui essayent de le sortir un peu de leur contexte pour essayer de créer des choses nouvelles avec. C'est un groupe qui s'appelle Moon, M-U-N, M-U accent N.
Ah d'accord.
Le jeudi ensuite on aura un duo de jazz qui s'appelle le duo Réflexion. Voilà, un duo piano-guitare, ils avaient envie de mettre en avant ces deux instruments parce qu'ils ont un peu l'impression que c'est pas forcément un duo d'instruments qui est beaucoup représenté dans la musique jazz et du coup ils voulaient expérimenter ça sur scène. Donc ensuite le vendredi 12 il y aura Camila Souza, comme je l'ai dit, musique brésilienne, et on finira le samedi 13 avec Molo Sol qui propose de la prose musicale voilà, sur un texte de Blaise Sandrars, la prose du transsibérien.
Oui, voilà, c'est vraiment des choses très variées qu'on vous propose et c'était un beau clin d'œil de finir de finir le samedi 13 avec un poème de Sandrars. Voilà, on est à la CAFPO et voilà, c'est ça la CAFPO, de l'Inde au train transsibérien qui nous mène jusqu'à Vladivostok en passant par le Brésil. Voilà, n'hésitez pas à venir, c'est tous les soirs à
19h. Faire le tour du monde en musique.
Voilà. Oui, voilà, les concerts, ils ont lieu vers 19h45. On propose des petits tapas. Voilà, n'hésitez pas à venir, c'est très convivial, très simple. Et il n'y a pas besoin de consommer pour être présent dans la salle, pour écouter. Voilà.
D'accord, donc ça finit la semaine prochaine. Et ensuite, démarre la programmation musicale, comme tous les étés à la CAF Poésie, depuis de nombreuses années.
C'est vrai.
Alors là, que le choix, comment s'est-il effectué ?
Là, c'était à la fois des coups de cœur qu'on a pu avoir. C'est le cas, par exemple, de André Da Silva. André Da Silva, c'est un guitariste qui n'est pas très connu à Toulouse, qui a été l'invité de Maël Goldwezer l'année dernière dans une semaine estivale qu'on avait dédiée au flamenco. Et Maël avait choisi de l'inviter. Son jeu de guitare nous a beaucoup plu et on lui a proposé de venir avec son duo Religo, qui là propose un duo original trompette guitare pour des musiques vraiment métissées Brésil de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est des coups de cœur. D'autres, c'est des artistes qu'on n'avait jamais fait venir à la cave ou en tous les cas depuis 5-6 ans ils n'étaient jamais venus et on avait vraiment envie de les revoir à la cave en l'occurrence.
Oui, je comprends.
Je pense par exemple à Marin qui est un super chanteur de la bande de Chouf, Galure, Lucas Lemoff, etc. Et il a un peu disparu des radars de la chanson française à Toulouse. Bon, il a une super carrière avec le collectif Féol, notamment en musique contemporaine. Et il y a quelques temps, il a monté un nouveau répertoire, Les Champs Bleus. Donc c'était l'occasion de le recevoir. Aïda Sanchez.
Elle est connue.
elle est très connue. Ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas venue à la cave. Et puis maintenant qu'Orlando s'est terminé, elle part sur une carrière solo. Ouais. Et là, c'était l'occasion justement de l'accueillir avec son nouveau répertoire.
D'accord.
Et puis après, il y a des propositions qui nous sont faites. Elles sont tellement... les artistes sur le plateau sont tellement incroyables qu'on les accueille les yeux fermés. Je pense par exemple au duo Claude Delrieux, Jean-Luc Amestoy,
ah oui.
Deux grands accordéonistes de la scène toulousaine. Ils sont tellement exceptionnels l'un l'autre.
Que leur fantaisie, leur spécificité, voilà, oui.
Lorsqu'ils nous ont proposé leur duo, ben, j'y suis allé les yeux fermés parce que c'est vraiment super. Donc voilà, la programmation, c'est vraiment des mélanges à la fois de coups de cœur, à la fois de coups de poker. Et puis une nouveauté cette année, on va commencer par un peu de poésie avec un jeune poète haïtien qui s'appelle Jean d'Amérique. Il porte un nom vraiment prédestiné.
C'est son vrai nom ?
C'est son vrai nom, ouais. Jean d'Amérique. Et qui est actuellement en résidence à la Maison des Écritures de Lombez, dans le Gers.
Ouais.
Et il va faire une petite incursion à Toulouse le 15 pour nous proposer un récital à partir de son dernier recueil. C'est un recueil pour lequel il a eu un prix littéraire. Le prix de la SGDL, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein,
c'est ça, oui.
Le prix Révélation. Il est publié chez Chêne Éditeur et son texte s'appelle « Nul chemin dans la peau que saignante étreinte ».« Nul chemin dans la peau que saignante étreinte ». C'est un jeune gars, ça vaut vraiment le coup de le suivre. Voilà.
Comment l'avez-vous rencontré, connu ?
Parce que avec Maya Soulas, la directrice de la Maison des Écritures de Lombez, on discute beaucoup, on échange. On avait eu des partenariats avec elle à l'époque de Fabienne Hiver.
Ah oui.
Et voilà, quand, lorsqu'elle m'a... Parce qu'à la Maison des Écritures de Lombez, c'est vraiment l'écriture en tout genre. Et là, comme ils avaient une spécificité poésie, c'était l'occasion de retravailler avec eux. Après, la spécificité de la programmation de l'été de la cave, c'est que ce sont essentiellement des artistes de la région. Bon, Aïda Sanchez, bien sûr, Claude Delrieux, Jean-Luc Amestoy, mais je pense par exemple à Sicania, le groupe qui commencera l'été le 16 juillet, à partir du 16 juillet. C'est Sébastien Sirotto, qu'on connaît bien dans le milieu jazz toulousain, qui vient avec Aude Boutard. Qui est une contrebassiste qui travaille notamment avec Émilie Cadieu pour le duo Diode,
oui.
Duo de chansons qui ont joué cette année notamment au Théâtre du Grand Rond. Et là, tous les deux, ils sont allés chercher une chanteuse italienne, Agnese Migliore, pour un répertoire de chants traditionnels, chansons traditionnelles de Sicile.
Elle chantera à l'italien, donc à Sicilien, d'accord.
Et là, ce sera vraiment un mélange jazz, musique traditionnelle.
Quelque chose de très métissé, donc.
Exactement, exactement. Pareil, on finit l'été avec Beresco, qui est un duo qui était venu il y a 4-5 ans à la cave présenter leur premier répertoire autour de chants basques, chants basques revisités. C'est toujours ça qui nous intéresse, c'est des formes hybrides. Oui, on fait de la musique traditionnelle, musique du monde, mais avec ce regard contemporain. Ouais. On n'est pas dans une tradition traditionnaliste.
Sclérosée. Oui, au contraire, c'est la façon de s'en emparer, d'en faire autre chose.
Exactement.
D'accord, une relecture.
Oui, comment les artistes contemporains...
S'emparent de leur histoire.
Exactement. Voilà.
Ils chanteront en basque ?
Ils chanteront en basque, des créations. À partir de poèmes improvisés qu'on appelle les Bertschou, qui sont portés par... c'est une tradition d'improvisation, en fait, portée par les bergers basques. Et puis, petit à petit, cette tradition s'est formalisée. Maintenant, on a des recueils de Bertschou. Et ils sont allés prendre des textes de poètes célèbres basques.
Donc, ils ont collecté comme ça des différents poèmes.
Exactement. Et ils les ont mis en musique. C'est complètement décalé.
C'est une autre façon de faire revivre leur culture d'origine, si
oui,
on peut
oui,
dire.
Tout à fait.
En la mettant à la.
Oui, parce que Luc Faguaga, il est basque.
Façon contemporaine.
Effectivement, mais il aborde ce répertoire de façon novatrice.
D'accord.
Et là, ils resteront, ça sera sur une semaine que les artistes resteront
en, oui, à en chaque gros, fois, oui, de mardi à samedi.
Du mardi à samedi inclus, c'est ça.
Voilà, alors les concerts sont à 20h30.
Oui, dans l'horaire reste inchangé.
Oui. On ouvre les portes vers 19h30, 20h. Pareil, il y aura toujours un petit truc à grignoter. Mmh. N'hésitez pas à venir. On a une climatisation. C'est en canicule, ça peut être utile. Et puis à la cave, on a une climatisation naturelle. Donc ouais, voilà, si vous avez envie d'être au frais un petit moment, n'hésitez pas à venir. D'autant que ces artistes, ils ont vraiment besoin du public.
Ah oui. Par définition.
Voilà,
oui.
On réfléchissait à faire un petit édito là, dans le prochain programme de la cave, en disant la cave poésie comme un champ de maraîchers bio. Mmh. Et c'est vrai que les artistes qui viennent à la cave, c'est des artistes vraiment, on ne peut pas plus locaux, cultivés à moins de 50 km de la cave poésie. Vraiment, le coût du panier...
Le Basque, il est un peu plus loin, quand même.
Non, parce qu'il est à Toulouse.
Ah, il vit à Toulouse,
il
d'accord.
Vit à Toulouse,
d'accord.
Il vit d'accord. À Toulouse, Luc Fagoaga. Ouais.
Autant pour moi.
Ouais, ouais. Tous ils sont dans le coin et le prix du panier il est vraiment pas cher, c'est entre 6 et 13 euros la place. Voilà, donc n'hésitez pas à venir.
Et les concerts auront-ils lieu dans la salle du haut ou dans la cave, ou c'est variable selon les... Pardon.
Selon notre bon plaisir. D'accord. Et celui des artistes.
Et oui,
surtout.
Parce que c'est aussi qui peuvent savoir ce qui leur convient le mieux.
Exactement.
Au niveau acoustique.
Exactement. C'est-à-dire que le duo, par exemple, accordéon, Jean-Luc Amestoy, Claude Delrieux, en août, bien évidemment, ce sera à la cave, en acoustique, on sera là, tout proche de l'instrument. Quand on va avoir Aida Sanchez, qui va venir avec piano, guitare électrique, bon, ben, de suite, ça nécessite un peu plus d'ampleur au niveau du volume, et on sera sans doute au foyer. Mais le duo Religo, trompette, guitare, ce sera en bas. Donc voilà, on jongle entre les deux salles, puisqu'on a cette chance.
Cette opportunité.
Oui. Voilà.
Puisque vous parliez de pianistes, et notamment Didier, Delrieux, non, Claude Delrieux, pardon.
Et qui est accordéoniste.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Pianiste.
J'ai dit pianiste.
Oui, oui.
Non, mais je voulais dire accordéoniste, excusez-moi.
Mais après tout, hein, c'est le piano du pauvre,
oui.
N'est-ce pas?
Et donc Jean-Luc Messin, avez-vous des nouvelles de Didier Dulieu, justement?
Oui, alors Didier a joué il y a quelques semaines à la salle Nougaro dans le cadre d'une soirée hommage.
Il a pu jouer,
ouais,
d'accord.
Quelques morceaux de sur le
son sur le nouvel accordéon là
le
que
mélo, oui. Le pas, c'est pas le Melodica, c'est bon, bref.
C'est un accordéon qui est conçu spécialement pour lui. C'est...
En tous les cas, c'est un accordéon qu'on peut travailler d'une seule main.
Voilà, oui.
Un accordina. Puisque malheureusement, voilà,
il a eu un AVC
et il a un problème au bras gauche.
Oui, il y avait eu cette soirée hommage, donc pour le, voilà, je l'avais annoncé. Enfin.
Voilà, alors peut-être que on le reverra à la cave en novembre pour les 24 heures d'accordéon qu'on va réitérer pour une deuxième édition. Peut-être qu'il va venir, espérons-le.
Et comment dire? Vous savez quel a été son ressenti de se retrouver sur scène après cette longue séparation d'Avec la scène, c'est le cas de le dire, et cette douloureuse expérience. Quoi,
non, je ne sais pas comment.
Vous y étiez au spectacle?
Non, je n'y étais
pas. D'accord. Ok, ça c'était un petit. Voilà,
oui, un aparté.
Puisque bon, je sais que notamment quand l'an passé vous aviez fait les 24 heures de l'accordéon, il y avait des gens qui étaient. Certains accordéonistes qui étaient venus ici en direct. Et puis ils avaient dit aussi qu'il y aurait un clin d'œil à la tasse. Donc c'est pour ça que je me permettais de le demander.
Oui, parce qu'en plus à la cave, c'est le dernier endroit où Didier
a joué.
Voilà, fait son concert, son dernier concert. Donc c'est. Puis c'est quelqu'un de tellement extraordinaire. Voilà, il mérite vraiment.
Puis c'est bien de pouvoir le soutenir dans cette dure épreuve, quoi, de l'accompagner le mieux possible.
Exactement. Bah, exactement.
Je propose peut-être. Vous n'avez pas porté de musique, vous hein,
Non.
Donc, nos écritures, mais peut-être un peu de Beethoven, je ne sais pas. Et puis après, nous continuerons la conversation avec l'équipe de la CAF Poésie.
Thank you.
Donc, aussi, vous allez parler de ce qui va se passer au bord du lac de la Reinerie, puisqu'il y a la cave poésie intervient d'une certaine manière. Et oui. Vous allez nous parler de ce partenariat, puisque aussi c'est quelque chose qui se déroule pratiquement sur tout l'été. Hein. Enfin, avec des petits rendez-vous comme ça.
Oui, en fait, c'est une carte blanche que nous a lancée le Centre Alban Mainville, Cyril Cachon du Centre Alban Mainville. Vraiment, on le remercie énormément d'avoir pensé à nous. Il investit le lac de la Reinerie et voulait proposer, et va proposer tous les jeudis, sur les coups de 17h.
Au bord du lac, donc.
Au bord du
autour
lac.
Du lac, quoi, plutôt.
Exactement.
Oui, d'accord.
Une proposition artistique.
En plein air.
En plein air, gratuite, ouvert à tous et à toutes. Et là, nous, ce qu'on lui a proposé, c'est deux choses. La première, c'est un loto littéraire, loto démo.
Que vous avez fait déjà à la CAF Poésie,
qu'on a fait à la CAF
notamment.
Po, qu'on a fait dans Toulouse Métropole cette année.
Oui, c'est qui est venu en parler.
Voilà, c'est vraiment très ludique. Si vous détestez le loto, allez-y, parce que c'est une autre façon de le vivre.
Oui.
Si vous aimez le loto, allez-y aussi, parce que c'est comme un loto, mais en mieux. Et en fait, au lieu de tirer des chiffres, on tire des mots. Et la personne, pour gagner une quine, donc je rappelle pour les personnes qui n'ont jamais joué au loto qu'il faut faire un quine,
ouais,
ou alors
ranger.
Double quine ou carton plein, n'est-ce pas,
ouais.
Que la quine, c'est donc quine, c'est 5 chiffres, mais là ce sera 5 mots. Et pour gagner sa quine, une fois qu'on a les 5 mots, il faut être capable de faire une phrase à partir des 5 mots. Donc c'est un système très ludique, comme sur à l'image des cadavres exquis, voilà. Et donc ça, c'est le 11 juillet, avec deux slameurs.
La semaine prochaine, jeudi
voilà,
prochain.
Jeudi
donc c'est
prochain,
l'ouverture,
à 17h.
À 17h,
d'accord.
Avec deux slameurs qui animent le duo Double Apax, Bruno Izarn et Jérôme Cabot. Voilà, si vous avez envie d'aller au bord du lac en famille, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et à toutes. Et l'autre proposition qu'on fait, c'est des rendez-vous autour des mille et une nuits.
Oui.
L'année dernière, certains auditeurs ou certaines auditrices s'en souviennent peut-être, on a fêté les 50 ans de la cave en proposant 50 heures de lecture non-stop à partir des mille et une nuits. On avait tout le matériel qui était là,
et on
a proposé à Cyril Quinchon de partir là-dessus. Donc il y aura 4 rendez-vous pour 4 lectures de contes des mille et une nuits. Il y aura notamment le 1er et le 2 août, Nathalie Pagnac qui va lire Ali Baba et les 40 voleurs. Donc,
d'accord.
Pareil, c'est vraiment grand public. N'hésitez pas à y aller en famille, ça va être très drôle. Et le 25-26 juillet, c'est Jean-Michel Hernandez qui commencera avec notamment le conte du marchand et du démon. Où là, on se retrouve avec des génies. C'est une alternative à Aladdin. C'est vraiment, vraiment super. Et comme d'habitude à la CAF, c'est toujours des propositions hybrides. Donc, il y aura une proposition, ce sera avec du oud.
Oui.
Et une autre avec de la guitare électrique.
Joué par qui, le oud ?
Le oud par Salvatore Paterna.
Ah oui. Ah, il joue du oud aussi, parce que moi, je le connaissais comme guitariste.
Comme guitariste, ouais, les deux. Et il y aura Nicolas Lafourest pour la guitare électrique.
D'accord. Donc ça, ce sont votre participation à ce qui se passe à la Reinerie cet été.
Oui.
Il y a notamment la compagnie La Baraque de Elisa Martin Pradal, qui, entre autres, qu'il avait déjà fait d'ailleurs par le passé, faire des animations comme ça autour du lac.
Tout à fait. Mais c'est leur quartier, ils sont pas loin. Donc c'est vraiment important de faire, de sortir des
Murs.
Bien
sûr, oui. Et d'aller à la rencontre d'autres personnes qui peut-être ne seraient pas venues jusqu'à la cave.
Exactement.
Et de donner comme ça, de semer des petites graines de poésie, de musique, de danse.
Oui, puis faire entendre ce texte qui a 800 ans d'âge et qui défend une certaine image de liberté, liberté de la femme. C'est intéressant. C'est intéressant parce que Scheherazade, dans l'épreuve qu'elle subit, puisqu'elle s'est mariée avec
le sultan pour
empêcher le meurtre, puisque le sultan découvre que sa femme le trompe, et donc il la tue, et tous les jours, il se marie avec une nouvelle femme, qu'il tue à la nuit tombée, pour être sûr qu'elle ne le trahisse pas. Et Scheherazade vient s'interposer là-dedans, avec ce subterfuge des contes, mais c'est vraiment pour faire réfléchir à cette inhumanité. Et les contes qu'elle propose sont des réflexions toujours sur l'humanité, l'inhumanité, la justice, la justice des hommes. Et venir interroger la charia dans son inhumanité, pour le coup. Voilà, c'est un texte qui, aujourd'hui,
résonne. D'ailleurs, malheureusement, vu le nombre de féminicides, d'ailleurs, il y en a eu encore cette semaine, enfin, c'est terrible, quoi, 2019 en France, c'est hallucinant. Hein.
Et puis sur l'époque rétrograde qu'on vit.
Voilà, oui, bah c'est oui. Mais je pense que ça va de pair, hein, de toute façon.
Exactement.
Voilà.
Oui,
hein,
tout à fait.
Oui, dans tous les domaines, oui.
L'oppression de la femme va de pair avec une
régression.
Régression morale,
voilà,
ça,
hein,
c'est sûr.
C'est terrible, quoi. Ouais. En 21e siècle, certains démons surgissent, mais avec vigueur, quoi, malheureusement. Quoi. Et donc, il faut...
Ben, on vit vraiment une époque rétrograde, c'est ça qui est terrible.
Oui, et l'endroit oui, qui a la poésie, qui a l'art pour essayer de...
On essaye.
Est-ce que vous vouliez aussi, concernant la cave poésie, évoquer d'autres, la rentrée, il y aura un bazar chez René, j'imagine, comme tous les ans, premier, second week-end, troisième, je ne sais plus.
Alors, Mélanie. 21 et 22 septembre.
C'est-à-dire, c'est lors des journées du patrimoine.
Du patrimoine, ouais, d'accord. C'est ça. On organise un salon des éditeurs, donc c'est chez René. C'est un bazar littéraire pas comme les autres, en fait, voilà, ça dure sur tout un week-end. Il y aura de la poésie, des lectures, des ateliers, des spectacles. Et ce sera riche en humanité.
Vous connaissez déjà le nom de certaines maisons d'édition, puisque j'imagine qu'il y en a qui reviennent de façon régulière. Hein.
Alors, il y a une trentaine d'éditeurs qui, de la région Occitanie, principalement, mais pas que. Il y a notamment Anacarsis, CMDE, F de Phosphène, les fondeurs de briques. Il y en a tellement.
Il y aura notamment, enfin, la chose à noter pour ce bazar littéraire, c'est la publication du volume 4 des éditions Nakanoï. Les éditions Nakanoï, certains auditeurs ou auditrices s'en rappellent peut-être, on les a fait venir pendant 2 ans à la cave pour faire tout un tas d'ateliers d'écriture. Et ils sont en train d'aboutir enfin le livre qu'ils ont écrit à Toulouse. Et on propose à toutes les personnes qui ont participé aux ateliers, puis à toutes celles et ceux qui veulent découvrir le travail des éditions Nakanoï, de nous rejoindre le samedi 21 septembre sur les coups de 19h à l'apéro. Ils seront là pour une petite performance et surtout pour présenter leur livre.
Le recueil, quoi.
Le recueil qui sera enfin sorti. Donc ça va être vraiment une grande fête pour ce bazar littéraire.
Donc il commencera à 19h, c'est ça le samedi, ou ça commence avant
à 10h? Ça commence à 10h. Ouais, 10-11h le matin. Les 2 jours complets, 2 jours pleins.
Et donc vous investissez toute la cave poésie avec des livres, en général ça se faisait comme ça, mais je ne sais pas, il y a peut-être une surprise.
Oui, on va toute la cave, le foyer, la ruelle, la cour, voilà, on va récupérer des meubles un peu partout et créer une ambiance conviviale et chaleureuse.
Et est-ce que dans la rue aussi vous allez investir la rue ou pas? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Enfin, je sais pas.
On a demandé les autorisations, mais comme d'habitude, l'idée, c'est effectivement de faire sortir la littérature. Donc, on va être dans la rue. Il y aura
des gens qui interpelleront les passants.
Des bonimenteurs, comme d'habitude.
Oui.
Après, il y aura normalement, il devrait y avoir des crêpes. Et peut-être même des marmas papa.
Ça, les crêpes, c'est quelque chose qui vous accompagne.
Ah, mais s'il n'y a pas de crêpes, ça ne va pas du tout.
Parce que je me souviens...
c'est plus un bazar littéraire.
L'histoire des crêpes, vous en avez souvent parlé au micro.
Et oui, mais
c'est trop important.
C'est la marque des services civiques. Vous aviez une service civique, Claire, d'ailleurs, qui viendra mardi prochain.
Qui revient de son périple indien, voilà.
Exactement, qui était aussi une spécialiste des crêpes. Et il se trouve qu'à la cave, nous avions une plaque
qui traînait par là.
Voilà, on a pu réaliser son rêve, ça sert à ça aussi le service civique. C'est réaliser le rêve de jeunes.
Il faut préciser qu'elle en avait fait, et notamment avec vous, à 3h du matin dans la cour Cermet pour les mille et une
nuits. Bien sûr.
Oh, oui.
Donc voilà, c'était
le conte des mille et une nuits, pardon.
Blague à part, on s'est rendu compte que c'était quelque chose finalement de très convivial.
Ah oui, ça oui.
Et donc, il y aura effectivement dans la rue un bar, voilà, un peu de crêpes, des livres surtout. C'est, comme l'a dit Mélanie, c'est vraiment une ambiance. Ce qui nous importe, c'est d'arriver à créer autour du livre une ambiance chaleureuse et conviviale.
une autre approche peut-être aussi de la littérature, de l'édition de...
Une approche pas exhaustive, mais ouais. assez complète quand même oui. aussi. Avec les ateliers, oui, avec voilà, oui. les lectures. Avec...
Et puis les éditeurs sont là, voilà, présents, enfin, donc il est possible de les rencontrer, d'échanger. Voilà.
On a envie de créer la rencontre aussi, puis de briser des barrières. Souvent, les éditeurs, c'est souvent mystérieux, le monde
oui,
de l'édition.
Bah oui.
On a le livre, mais on ne sait pas trop comment il est construit.
Oui,
quoi.
Bah oui, c'est toute une histoire, et c'est voilà. toute une aventure. Il faut dire qu'en plus, la région, bon, maintenant, la région occitane, enfin, moi, je connaissais surtout quand c'était encore Midi-Pyrénées, mais il y a vraiment une foultitude de maisons d'édition. C'est...
Oui, oui.
Il y en a beaucoup. Hein,
il y en a beaucoup, de très grande qualité. Uh-huh. Et,
avec certaines qui ont des spécificités vraiment... et d'autres, bon, plus larges.
Tout
plus
à
large,
fait,
mais...
oui, avec vraiment des identités fortes. Et une particularité, c'est surtout qu'elles publient beaucoup de littérature traduite. Mmh. Donc, de fait, on est sur une ouverture au monde qui est vraiment jouissive et dont il faut profiter.
Mmh. D'accord. Donc, c'est vous, Mélanie, j'imagine, qui coordonnez tout ce qui est le bazar chez René, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça.
D'accord. Donc, vous êtes fort occupée.
Assez.
En fait, voilà, Mélanie nous a rejoint fin mai.
Ouais. Ah oui,
et elle va, voilà, elle va nous accompagner. Comme ça va monter en puissance jusqu'à septembre. Mm-hmm. Puis après, elle ira sur d'autres missions. Mais effectivement, c'est un événement qui nécessite une grosse organisation.
Ah ben oui, oui.
Qu'elle va, voilà, prendre en charge jusqu'à sa réalisation.
D'accord. Avez-vous d'autres choses à évoquer concernant la CAF Poésie ? Si ce n'est qu'après la rentrée, bon, ce sera en septembre, que la présentation de saison sera le 11 septembre.
Non, le 17.
Le 17, décidément.
Le 17,
oui,
le 17.
Oui, c'était l'année dernière.
C'est un mardi toujours, en général, c'est un mardi,
oui, voilà.
11h en général.
Voilà, sans doute. Non, surtout, bah, tous les auditeurs, toutes les auditrices, n'hésitez pas à venir à la CAVE. Voilà, il se passe des choses à Toulouse durant l'été.
Oui, c'est la CAVE reste ouverte tout l'été.
La CAVE est ouverte tout l'été. Il y a vraiment des artistes qui ont besoin du soutien de tout le monde.
Oui.
Parfois ce sera mauvais, parfois ce sera très bon, mais bon, on va au cinéma, on va se voir des grosses daubes et ça n'empêche pas d'y retourner parce qu'on sait que le cinéma en lui-même c'est quelque chose de bien. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à tenter des expériences parce que là ce sont des jeunes artistes qui ont besoin de retour, qui ont besoin de se tester et sans public rien n'existe, ni la CAVE ni ces artistes là donc voilà, plutôt que d'aller voir le plateau Energy Music Awards pour le 14 juillet avec Jane et Big Flo Oli, venez à la CAVE voir ce qui c'est qu'il y a à ce moment-là
le 14, on a le 15, on a Jean d'Amérique.
Ah oui, venez voir Jean d'Amérique, venez voir Sicania, c'est tout aussi bien, moins médiatique, mais il mérite tout autant votre attention et votre soutien.
Mmh. Et est-ce que, sans déflorer la saison prochaine, est-ce que vous continuerez tout ce travail à l'attention notamment des scolaires que vous faites quand vous les recevez des fois, ou quand aussi l'écriture, concernant l'écriture ? Est-ce que tous ces ateliers peuvent perdurer ?
On va continuer, effectivement. C'est la mission de la CAF, si tant est qu'elle ait une mission, de vraiment travailler sur les littératures. C'est sa spécificité à Toulouse, on pourrait dire. On essaye de multiplier les publics, les entrées. Parfois, on y arrive, parfois moins. Mmh. Ah, maintenant, on a un compte Instagram.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ça, c'est important.
Peut-être Clémentine,
ça,
tu peux en parler.
C'est vous qui l'avez créé, qui l'avez mis en place.
Depuis mardi, depuis lundi, on a un compte Instagram.
D'accord.
Donc il
ne
faut pas hésiter à venir nous suivre. C'est CAF Poésie-du-Bas Toulouse. Mm-hmm. Voilà, et on met des petites images rigolotes.
D'accord. Ok. Y compris les choses qui se passent dans les coulisses, enfin, je ne sais pas, dans les réunions.
Ouais,
enfin, je sais
ça
pas.
Peut arriver.
Les réunions de bureau, je ne sais pas.
Ah, je vois que vous êtes curieuse, Marie-Madeleine.
Ah, mais tout, c'est ma nature. C'est... Puis, bon, si je suis derrière un micro, si je ne suis pas curieuse, c'est un peu gênant, je trouve.
Ah bien oui, alors peut-être faudrait faire des photos de nos réunions pour Marie-Madeleine. On mettra un tag spécial Marie-Madeleine, dédicace.
Hashtag Marie-Madeleine.
Hashtag...
Non, mais j'informe, je fais en sorte que les gens qui écoutent soient informés, c'est tout.
Non, mais effectivement, on retrouve donc des informations sur les spectacles,
évidemment.
Oui, je
me doute, oui. Non, plaisanterie à part.
Et aussi, effectivement, des publications peut-être un peu plus quotidiennes que sur d'autres réseaux sociaux.
Bah oui, puisque...
Voilà, puisque le support s'y prête. Et du coup, voilà, on retrouve des images un peu de comment ça se passe aussi avant les spectacles, après les spectacles.
Voilà, oui.
mais toujours décalé. Mmh. C'est toujours ça, vraiment.
Toujours avec notre identité, quoi.
Voilà, mmh. La CAFPO, vraiment, on essaye de faire toujours un pas de côté. Et là, vous pourrez voir les premières photos qui sont mises en ligne. Mmh. C'est inattendu.
D'accord.
C'est inattendu, non, enfin, je crois.
Pas plus, gardons le mystère.
Oui. Vous piquez notre curiosité, là.
Exactement.
Vous répétez peut-être tout ce qui est le site, le courriel, le Star, ouais. Tout, comme ça, les gens sont au courant.
Alors, donc, notre numéro de téléphone, si...
05 61 23 62 00,
c'est voilà. Ça, voilà. Notre site web, c'est cave-poésie.com. L'adresse mail générique pour nous contacter, c'est contact@cave-poésie.com. Notre Facebook, c'est Cave Poésie. Notre Instagram, c'est Cave Poésie-du-bas-Toulouse. Et notre Twitter, c'est Cave Poésie.
Mmh. D'accord.
Et vous pouvez nous appeler n'importe quand, soit on vous répond, si on vous répond pas, il y a un magnifique répondeur avec la voix de Gisèle.
Et oui.
Pour réserver pour n'importe quel concert cet été, n'hésitez pas à venir. Par contre, pour la guinguette, pas besoin d'appeler, vous,
les gens viennent,
vous ramenez avec venir, votre bonne voilà. Humeur, il y aura toujours de la place pour quelqu'un, et puis si on est complet, on trouvera bien une chaise pour vous asseoir dans un coin. Donc n'hésitez pas à venir dès ce soir d'ailleurs.
Et est-ce que concernant la guinguette, il peut y avoir aussi la partie artistique qui se déroule dans la cour Sermé, enfin de l'école Sermé?
Eh bien, peut-être.
D'accord.
Nous sommes en train d'y réfléchir.
Ok.
Peut-être la semaine prochaine, dès qu'il n'y aura plus personne à l'école.
Et oui, parce que là, c'est les vacances, voilà. C'est ce soir.
Il est fort probable. Et vous pouvez même enchaîner avec un concert à la CAFPO et après vous allez faire un ciné en plein air à la Cinémathèque.
À la Cinémathèque, voilà. Juste à côté. Et oui,
c'est la soirée parfaite.
Tous les étés, il y a donc cinéma en plein air dans la cour de la Cinémathèque.
Exactement.
Juste après.
Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait du petit grignotage. Vous travaillez avec quelqu'un en particulier, avec une association? Comment cela se passe-t-il?
Oui, alors normalement, on travaille avec Partage Faourette,
ouais.
Qui est une association qui se situe à Bagatelle et Bordelongue. Eux, ils préparent des repas dans le cadre de leurs actions, du café culturel qu'ils tiennent. Donc, c'est vraiment un partenariat qui, pour nous, est important. Bon, parfois, ils oublient ou parfois, ils ne peuvent pas. Alors, nous pallions.
Vous bricolez, c'est ça?
En cuisine, même. Nous cuisinons. Donc, voilà, on va au marché bio du coin et on prépare des petites choses. Donc, c'est toujours frais, toujours fait maison. C'est très simple, sans prétention. Mais c'est l'idée à chaque fois que ce soit convivial. Avec
un petit encas, voilà, de partage.
Exactement.
D'accord. Parfait. Ben, je pense que nous avons fait le tour et donc
merci à vous.
Nous
merci.
Nous retrouverons merci. À la rentrée pour parler de la saison et notamment des 24 heures de l'accordéon.
Oui, et puis on aura plein de choses. Un truc sur la retirada, effectivement.
Oui.
Rendez-vous, on va avoir un rendez-vous pendant 2 semaines sur la retirada, mais on reviendra en reparler puisque Canal Sud sera partenaire.
Diffusera, oui, un journal. Hein, et ça sera à partir du 23 septembre, les lundis matins à 10h.
À 10h. Voilà. 30.
Alors, je vérifierai, excusez-moi, mais je vais vérifier. D'accord. Merci à
Merci.
Tous les trois.
Merci.
À très vite.
Au revoir.